Session sur la personne humaine par le Père Marie-Dominique Philippe, le 1er juillet 2002 à Saint-Judard, deuxième conférence.
Je réponds tout de suite aux questions et puis après on continuera. Pouvez-vous situer plus précisément la métaphysique dans la philosophie ? Quel est le rapport entre l'éveil de notre intelligence et l'être ? Pourquoi situez-vous l'étude de la personne en métaphysique ? Très juste, très bien, bonne question. La métaphysique, j'ai dit ce matin que je me référais à Aristote parce que je crois qu'en effet, c'est quand même le philosophe. Saint Thomas a fait exactement au XIIIe siècle ce mouvement. On regardait Pierre Lombard comme un grand. Et c'était comme ça dans les courants philo-théologiques. Saint Thomas a eu le courage. Parce que la Sorbonne qui naissait n'était pas d'accord avec ça. Plutôt de revenir à Avicenne, Pierre Lombard Avicenne. Avicenne était un musulman du 8e siècle, en Espagne. Un génie, quelqu'un de merveilleux, mais mélange d'Aristote et de Platon, la tentation permanente, la tentation des hommes de 40 ans, et des femmes aussi, parce que le divin Platon, comme on l'appelle comme ça dans l'école platonicienne, le divin Platon, comme si c'était presque révélé. Saint Thomas a eu le courage, alors que la Sorbonne considérait Avicenne comme le grand auquel on se référait, de revenir à Aristote. Et en faisant ça, il s'est mis à dos la Sorbonne. La Sorbonne ne comprenait pas cet effort de Thomas d'Aquin de revenir à Aristote, puisque Aristote était le païen, alors que Avicenne était musulman, et donc il croyait. Et on a attaqué violemment saint Thomas. Et saint Thomas a tenu bon. Et c'est resté, puisque au fond saint Thomas n'est pas admis beaucoup dans la Sorbonne. Mais ce qui est curieux, c'est que la Sorbonne actuellement en France revient à Aristote. En Angleterre, on revenait à Aristote depuis bien longtemps. Alors, pour Aristote, la métaphysique, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. L'étude, vous voyez ? Les trois aspects spéculatifs. On étudie la nature. La nature, c'est les choses fondamentales, la terre, l'eau, le vent, le feu. Les quatre éléments. Et le cinquième, la quintessence, c'était les astres. Parce que au Moyen-Âge, on pensait que les astres n'avaient pas de mouvement, que les astres étaient faits avec une matière particulière qui les rendait inamovibles, éternels. Donc, on étudie successivement la nature, le vivant et l'être. L'être, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Le vivant est toujours un être. L'être physique est toujours un être. Donc, c'est ce qu'il y a de plus radical en nous. Je suis, tu es, jugement d'existence. La métaphysique, c'est l'étude de ce qui est sous le point de vue de l'être. Qu'est-ce qu'il est en tant qu'être ? Oui, c'est le point de vue le plus radical. L'intelligence est faite pour connaître ce qui est. Donc, pour connaître l'être en tant qu'être. C'est le point de vue ultime et dernier de l'intelligence. Parce que tout ce qui est, existe. Et donc doit être regardé sous le point de vue de l'être. En nous, l'homme a une nature, la nature humaine. La nature humaine, c'est-à-dire l'homme est un animal, oui, avec beaucoup de respect, hein, l'homme est un animal, mais un animal raisonnable. Pas toujours, mais qui tend à l'être. Bon. Voilà. Donc, il faut étudier la nature humaine. Il faut étudier l'homme comme un vivant. Étudier l'homme comme un être particulier, le sommet de tous les êtres que je puis expérimenter. Vous ne pouvez pas expérimenter un être plus parfait que l'homme. Et alors vous le regardez comme l'être le plus parfait. Et c'est vrai, c'est l'être le plus parfait. Parce que nous n'avons pas d'expérience des anges, et nous n'avons pas d'expérience de Dieu. Au plan philosophique, l'être le plus parfait que j'expérimente, c'est l'ami en tant qu'il est, il existe. Donc pour étudier vraiment l'homme, pour étudier l'être humain, il faut étudier non seulement le vivant, non seulement la nature, mais il faut étudier ce qu'il est. Son caractère tout à fait particulier. C'est pour ça que seule la métaphysique qui regarde l'être en tant qu'être, c'est vraiment l'ultime moment de la philosophie spéculative. Quel est le rapport entre l'éveil de notre intelligence et l'être ? L'intelligence est faite pour connaître ce qui est. Seule l'intelligence saisit ce qui est. L'imagination saisit ce qui est imaginable. Donc un être quantifié, un être matériel. Tandis que l'intelligence seule saisit l'être, ce qui est. Vous voyez, je me souviens à la soutenance d'une thèse d'un des frères de Saint-Jean à la Sorbonne, j'avais été et je voyais le jury devant moi qui me regardait d'un œil. Je ne dis pas complaisant, un œil curieux. Et puis il y avait celui qui passait son doctorat, ça faisait un beau triangle. Alors, il demande toujours, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez du jugement d'existence ? Ceci est. C'est beau pour quelqu'un qui est dans le jury philosophique, sur une thèse, se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce qui est ? Alors, j'avais envie de lui dire, pourquoi ? Vous n'avez jamais regardez que vous étiez. Je suis. Ah, je suis ce qui est. Il y a une différence entre ce qui est et ce qui est possible. Ce qui est, ça existe. Le possible peut exister. Donc une différence entre l'acte d'être, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. Et seule l'intelligence saisit l'être en tant qu'être. C'est le propre de l'intelligence. L'imagination saisit un être possible, imaginaire. Le sensible saisit un être sensible. Un être sensible. Je saisis la sensibilité de cette table. Et puis quand je donne la main à quelqu'un, je saisis une autre sensibilité. Ce n'est pas celle de la table. C'est la sensibilité d'un vivant et même d'un être humain. Mais c'est sensible encore. Les qualités de cette table, vous pouvez les avoir aussi dans votre main. Quand vous saisissez la main de quelqu'un, et vous saisissez tout de suite, en donnant la main, si vous avez affaire à un homme, ou si vous avez affaire à une guimauve. C'est curieux ça. Simplement saisissant la main. C'est quelque chose de saisir la main, dire bonjour. C'est quelque chose qui résiste. Et puis il y a des êtres qui ne résistent pas. Les limaces, pas très agréables. Quel est le rapport entre l'éveil de l'intelligence? L'intelligence est faite pour saisir ce qui est. Et ce qui est en définitive, c'est Dieu. Dieu, c'est l'être premier. Ce que Aristote a saisi, ce païen, il a saisi que Dieu, c'est ce qui est. L'être parfait. Pourquoi situez-vous l'étude de la personne en métaphysique? Je sais que ce que je fais là, je le fais dans la ligne de la philosophie aristotélicienne. Ce qu'il y a de plus parfait parmi les expériences que j'ai, c'est l'expérience de la personne humaine. En métaphysique, on saisit la substance. Dieu, c'est l'être premier. Ce que Aristote a saisi, ce païen, il a saisi que Dieu, c'est ce qui est. L'être parfait. Pourquoi situez-vous l'étude de la personne en métaphysique? Je sais que ce que je fais là, je le fais dans la ligne de la philosophie aristotélicienne. Ce qu'il y a de plus parfait parmi les expériences que j'ai, c'est l'expérience de la personne humaine. En métaphysique, on saisit la substance et l'acte. Tout ce qui est déterminé. Tout ce qui est, tout ce qui existe est en acte. Le plus parfait de tous les êtres que je connais, c'est l'homme. L'âme humaine est ma substance, et mon corps, et ce qui est déterminé par l'âme. Et l'homme a une finalité, son bonheur. Il vit pour ça, sans le savoir toujours. Alors, après avoir saisi les principes propres de l'être, je saisis la manière propre de l'être d'exister. L'être le plus parfait existe dans l'homme. Et c'est pour ça que je saisis l'être le plus parfait qui existe dans l'homme, c'est la personne. Je ne peux pas étudier vraiment la personne sans regarder que la personne est une manière propre d'exister. Je n'existe pas comme une vache, je n'existe pas comme un singe, je n'existe pas comme une fourmi. J'existe en homme, j'existe en femme, et c'est encore en homme, puisque homme peut signifier les deux. C'est la manière ultime de l'être le plus parfait que j'expérimente. C'est l'homme, c'est une personne. La personne ne signifie pas telle ou telle qualité, mais la personne exprime une manière d'être. Et c'est vrai, réfléchissez bien quand vous dites « Ah, voilà une véritable personne humaine, ben, une manière d'exister dans mon être, dans ma vie ». Donc il y a un lien très grand entre l'être et la personne. C'est la manière propre d'exister la plus parfaite que je peux connaître. Un singe peut imiter l'homme pour la cueillette des fruits. Vous avez déjà vu un singe cueillir les fruits. Il a un grand bâton, puis il tape dessus. C'est pas si bête, hein ? Il fait ça très bien. Le singe utilise mal le feu. J'ai jamais vu un singe utiliser le feu. Ah, c'est le propre de l'homme d'utiliser le feu. Les scouts savent ce que c'est qu'allumer un feu. Le feu. Il y a un mythe merveilleux sur le feu. C'était ce que Lénine avait fait pour sa licence. Les hommes ont volé aux dieux le feu. C'est un mythe. Parce que, ayant le feu, ils peuvent devenir des forgerons. Ayant le feu, ils peuvent assouplir les matières les plus rudes et être victorieux. C'est vrai. Un enfant est toujours curieux à l'égard du feu. Il est très curieux. Si on le laissait faire, il s'amuserait avec du feu. Ça le séduit, le feu. Alors fais attention. On le met loin. On dit ça brûle. Alors il comprend quand il est brûlé. C'est vrai que le feu, c'est séduisant. Pourquoi situez-vous l'étude de la personne en métaphysique ? C'est le terme de la métaphysique. Je n'ai peu étudié vraiment la personne qu'en métaphysique. En psychologie, j'étudie ce que je connais. mes réactions affectives, la difficulté ou la facilité à l'égard de la rencontre. Mais vous n'étudiez pas vraiment la personne. Qu'est-ce que c'est que la personne ? C'est une manière d'être intelligente. On va voir les différentes parties de la personne. Comment distinguez-vous personne et individu ? C'est très juste de voir dire ça. J'allais le voir après. Personne et individu. L'individuation vient de mon corps. Et ma personne vient de mon âme. C'est très gros ce que je vous dis, mais ça vous fait comprendre. Mon individuation. Je suis un individu. C'est vrai. Je suis unique dans mon espèce. Personne n'est comme moi. Petite satisfaction, hein. La petite satisfaction, très simple. Personne n'est comme moi. Si je n'existais pas, il manquerait quelque chose. Il manquerait quelque chose dans l'ordre de l'être. Je suis un être. L'individu, c'est un être individué par la quantité, par la matière. C'est mon corps qui me fait un individu. Et c'est mon âme qui me fait être une personne. Quand vous voyez un colosse, qu'on vous sort ça au foire, au cirque, vous voyez ces colosses. Oui, c'est un mot. Vous dites quel individu. Vous ne dites pas quelle personne. Je pèse 110 kilos. Ah, quelle personne majestueuse. Non, quel individu lourd à porter. L'individu, c'est la personne quant à son corps. Je suis un individu. Et je suis unique dans mon espèce. Il n'y a jamais deux individus semblables. Il y a toujours une petite spécialité. Mais une petite spécialité, quelquefois très cachée. Mais un individu, quant à son corps, l'individualité vient de la matière et de la quantité. Ce n'est pas les qualités qui vous individualisent, non. Ça regarde la personne, votre intelligence et votre amour. On verra mieux individu au terme qu'on aura bien vu la personne. Vous semblez regarder la personne dans sa perfection. À quel moment l'atteint-elle ? On va voir les différentes personnes, du moins ce qu'est la personne, les différents moments. Et c'est vrai, tant que je n'ai pas développé mon intelligence, ma volonté, je ne suis pas une personne. Un petit enfant dans son berceau, c'est un petit individu, il est merveilleux. Mais vous ne dites pas, quelle belle personne. Vous direz, ah, il deviendra quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un, c'est une personne. Est-ce vraiment la personne en tant que telle qui décline au moment de la maladie ou de la vieillesse? En réalité, c'est l'individu qui décline. L'individu a une croissance. La personne l'a aussi, mais intérieurement. Tandis que la croissance de l'individu, ça se voit. Vous passez du bébé à l'homme, au petit bébé qui commence à bouger, parce qu'il commence par marcher à quatre pattes. C'est vrai. Pourquoi l'enfant passe de quatre pattes à deux? On peut se demander ça. Aristote s'est posé la question. On voit très bien, père de famille, il a vu ce petit qui a grandi. Ah, parce qu'il vit avec des personnes qui sont toujours à marcher. Un petit enfant emmené par une louve. On a des écrits là-dessus. On le retrouve 3 ans après. Comment on le retrouve? À quatre pattes. Oh, c'est curieux ça. Un enfant qui vivrait avec des lions, des loups, il ne marcherait pas debout. Parce qu'il est toujours enveloppé par des animaux à quatre pattes. Ça, c'est un fait, ça. C'est avéré. J'ai lu ça, ça m'intéressait. Vous marchez à cause de quoi? Parce que vos parents, qui sont là à côté de vous, se libèrent des mains. La libération de la main, c'est quelque chose, hein? On se libère de la main. Alors, si vous alliez à quatre pattes, vous auriez les pieds et les mains mobilisés. Et vous ne pourriez pas agir avec autant de liberté. Si vous marchiez à quatre pattes, comment vous seriez assis? Ne faites pas laisser, hein, parce que arriver à libérer la main pour Aristote, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est par là que le corps humain devient un instrument de l'âme. Il se libère. Alors que s'il marchait à quatre pattes, il aurait plus de stabilité. Et c'est vrai, quand on marche sur ses deux pieds et qu'on est un peu malade, tout tourne. Vite, on se met à quatre pattes ou on s'assied. Si on est une grande personne, on s'assied. Si on est encore à marcher à quatre pattes, on est stable. Sur un bateau, vous commencez à avoir un peu le mal de mer. C'est difficile de rester debout. Et vous vous asseyez. Et si vous ne pouvez pas vous asseoir, on peut toujours s'asseoir. Il n'y a pas de siège, on s'assied par terre. Et c'est très stable. Vous semblez dire que dans certains cas, on ne peut pas vraiment parler de la personne. Donc, la personne, en tant que telle, c'est le moment où on commence à parler, à réfléchir, à s'orienter. On est le maître d'un petit monde, le monde de notre corps animé par l'âme. Dans certains cas, quand l'intelligence ne s'est pas développée, et que l'amour ne se développe pas non plus, vous dites, il y a un arrêt. Alors, c'est une personne qui reste toujours à devenir une personne. C'est l'handicap qui arrête. Pouvez-vous préciser en quel sens, surtout du côté de l'intelligence? Parce que du côté des bras, par exemple, quand vous avez des malformations du côté du bras et que vous êtes très intelligent et que l'intelligence se développe énormément, je connais quelqu'un qui était né avec des bras qui n'étaient pas normaux. Mais il a développé extraordinairement son intelligence. Donc, on dira, c'est une personne handicapée, mais c'est une personne. Et le corps peut être handicapé. Le corps peut être malade. Le corps peut vieillir. Mais l'intelligence ne vieillit pas. Ce qui vieillit, c'est notre mémoire. Parce qu'il y a un corps, parce qu'il y a un organe physique. Mais l'intelligence ne vieillit pas. Elle pénètre toujours plus profondément. Ça, j'en ai expérience. Depuis 1937, j'enseigne la philosophie. J'ai le privilège d'être sans doute, je n'ai pas vérifié, le plus vieux professeur de philosophie. Alors, je vois ce que c'est que la vieillesse. La vieillesse, elle se traduit dans le langage. Elle se traduit parce qu'on va plus lentement et on parle plus lentement. Mais la pénétration de l'intelligence augmente toujours. Il y a des choses qu'on ne découvre, du moins personnellement, que maintenant. Tu n'aurais jamais eu l'audace de dire telle chose, il ne faut plus le dire. C'est curieux. L'intelligence ne vieillit pas. Elle pénètre toujours plus loin, mais la mémoire vieillit. Et la mémoire vieillit à des mots qu'on ne rattrape plus. Vous disiez qu'en psychologie, le « je pense » est premier. Descartes est-il plus psychologue que philosophe? Oui, il est sûrement comme le maître. Le développement de la psychologie s'est fait à partir nécessairement du « je pense ». Je pense, j'aime. Ce sont les états affectifs dans lesquels on est. J'ai envie de dormir à telle heure. Je demande au psychologue à cause de quoi j'ai envie de dormir à 6 heures. Pourquoi, vieillissant, on n'a plus besoin de dormir? Moi, j'avais toujours entendu que quand on vieillissait, on avait moins besoin de dormir. Alors, j'ai dit ça à un médecin, un peu psychologue. Il m'a dit, tout dépend combien de temps vous dormiez quand vous aviez 40, 45 ans. Si, à cet âge-là, il suffisait de dormir 4 heures ou 5 heures, quand vous serez plus âgé, vous devrez dormir plus. C'est curieux. En vieillissant, le corps est moins dompté. Et donc, il faut respecter davantage ce grand rythme, dormir, reposer. En vieillissant, il faut respecter davantage son corps. On ne peut pas demander au corps autant quand on vieillit, à partir de 80 ans, quand on commence à vieillir. Il y a des personnes qui vieillissent avant, mais ça... On commence à vieillir à 80 ans. Alors, à ce moment-là, on doit respecter davantage son corps. On ne peut pas demander au corps une assaise qu'on lui demandait quand on avait 30 ans. Quand on avait 30 ans et 40 ans, on pouvait très bien dominer le sommeil, arriver à dormir très peu de temps, petit à petit. Mais quand on vieillit, on respecte la vieille bête. C'est vrai, on doit la respecter. On ne peut pas lui demander la même chose. Vous voyez ? Alors, la personne, est-ce que la personne vieillit ? En tant qu'ayant un corps, mais elle ne vieillit pas dans son intelligence et sa capacité d'aimer. Au contraire, si pendant toute sa vie, elle a cherché de pénétrer davantage les réalités, l'homme, à connaître l'intelligence humaine ira plus loin, pénétrera davantage. Mais elle aura plus besoin de se reposer. Alors oui, l'individu est la personne. On porte en nous un individu qui vieillit. Et on porte en nous une personne qui ne vieillit pas. Creux, ça. Alors, ça, on le comprendra beaucoup mieux en voyant les éléments principaux, de la personne. Alors, dernière petite question. Quel est le rapport entre nature humaine et personne humaine ? Ma nature m'a été donnée avec tout l'atavisme. Je ressemble plus à mes grands-parents qu'à mes parents. Il faut toujours dire ça. C'est pour ça qu'on a tant de sympathie pour les grands-parents. Et c'est vrai. Alors c'est un donné, la nature, c'est un donné. Votre corps, il est dépendant de la procréation. Et la procréation est dépendante de vos parents. Et donc, l'atavisme joue au niveau de la nature. La personne, on l'acquiert. Elle dépend de la nature. Il y a énormément dans la personne qui dépend de la nature, mais il y a un dépassement de la nature. C'est pour ça qu'on peut très bien avoir une personne beaucoup plus catégorique, beaucoup plus forte que la personne de son père ou de sa mère. Au point de vue de la nature, on retrouvera quelque chose, l'atavisme. l'atavisme joue au niveau de la nature, mais pas au niveau de la personne. Quelquefois, c'est juste inverse. On a eu un père extrêmement volontaire. Et on se rappelle de ses volontés et de ses colères. Et on s'est dédié, surtout pas comme ça. Et on a cherché à avoir une personnalité différente. Les parents sont modèles, mais on ne cherche pas toujours à les imiter. Surtout maintenant, la jeunesse qui pousse, la jeunesse de 16 ans, je ne parle pas de la jeunesse ici, la jeunesse, il y a peut-être quelqu'un de 16 ans, la jeunesse de 16 ans n'aime pas tellement d'imiter les parents. Très facilement, on prend le 7 contre 3. On a eu des parents qui étaient plutôt avares. On aura une attitude inverse, de dépenser largement, d'être libéral. Et au point de vue politique, ça se ressent aussi. C'est très curieux, ça. Et tout ça, c'est la nature. Ça veut dire, par la nature, je ressemble à mes parents. Par ma personne, je me forge une personne. Et quelquefois, en 7 contre 1 vis-à-vis de mes parents. Pas toujours, hein. On avait des parents très agréables. On a une nature très colérique. Parce qu'il y a des natures colériques. Alors, on a fait grande attention de se dominer. Mais ça repousse. Tout le temps. La nature, elle revient tout le temps. On a fait des efforts, puis ça revient. On avait une nature, pourquoi colérique ? Ah, c'est qu'il y avait un grand-père qui était très colérique. On trouve ça dans l'atavisme. C'est curieux. C'est pour ça que c'est très complexe. La personne et la nature, c'est très complexe. Mais c'est lié. J'ai une nature et à partir de cette nature, je me suis forgé une personne. Une personne spéciale, particulière, et qui fait que je ne suis pas entièrement semblable à mes frères. Mais il y a une parenté de nature. Alors dans le fond, je retrouverai des ressemblances. Continuons ce que je vous disais tout à l'heure, ce matin. La personne s'est développée beaucoup grâce aux théologiens. Parce que parmi les dogmes chrétiens, on montre la nature et la personne. Dieu est unique dans sa nature. Il y a un seul Dieu et trois personnes. Alors, les théologiens ont beaucoup réfléchi là-dessus. Il faut voir que jusqu'au XIIIe siècle, l'intelligence était surtout aux théologiens. C'était eux qui réfléchissaient le plus. Ils ont essayé de savoir ce que c'est que la personne. Et après le XIVe siècle, XVe, XVIe, on a essayé de découvrir la personne indépendamment de la foi. à saisir ce qu'est l'individu et la personne. La nature montre l'individu. L'individu homme n'est pas l'individu singe, parce que leurs natures sont différentes. L'individu homme implique le corps et implique aussi l'orientation de sa vie. C'est sûr que notre corps s'est développé autrement si on était professeur de gymnastique, si on a eu la prétention d'obtenir le concours de bicyclette en France, de faire partie d'une équipe de football, c'est sûr, le corps s'est développé très différemment. Ou autrement, que dès notre jeune âge, on était fourré dans les livres. Ah, y a un équilibre, hein. Mais il y a aussi des extrêmes. Alors, c'est sûr que par le fait même, notre nature humaine s'est plutôt appauvrie et notre intelligence et notre volonté s'est très fort développée. C'est donc notre personne s'est développée très profondément. On est beaucoup plus personnel par le développement de son intelligence. Un savant, un artiste. Et notre corps s'est développé d'une façon très grande si on était un sportif. On a toujours eu beaucoup de peine avec l'intelligence. On était mal classé pour les compositions. Alors, on se rattrape par le corps. Ça ne veut pas dire que tous les sportifs sont des imbéciles. Non, non, heureusement. Il y a un art. Ah, il se rattrape par l'art. Il y a un art du côté sportif. Et savoir développer cet art, c'est quelque chose. L'intelligence est la présente. Bon, il est bien évident que les développements de chacun d'entre nous, au point de vue individu et au point de vue personne, sont très différents. Alors, j'étudie la personne en moi-même et dans mes amis. Et je vois que la personne est assez variée. Et aujourd'hui, je peux étudier le type latin d'une personne. C'est le type italien, français, espagnol. Il y a quelque chose de commun. Puis je peux étudier le type d'une personne et d'un individu du côté alémanique, du côté anglais. Il y a des diversités. C'est pas la même manière de se comporter. Il peut y avoir de très grandes diversités. Je peux regarder le type d'homme chez un moine ou chez un laboureur. Pas la même chose. Vous voyez, il y a beaucoup de variétés. Alors, si on a le temps, on pourra regarder les types particuliers de la personne. Mais Mais je commence par voir ce qu'il y a de commun dans toute personne humaine. Et quels sont les éléments de cette personne humaine. Je vous les cite. J'ai fait l'étude. Maintenant, ayant terminé cette étude, je peux compter. Premier élément de la personne, l'autonomie. Une personne se veut autonome. On a conscience d'une certaine autonomie. On va développer ensuite. Hein. Ici, je ne fais que citer l'autonomie. Une personne implique l'intelligence, la volonté. Ces trois éléments sont essentiels à la personne. Quatrième élément, le développement de la prudence. Le développement de toutes nos richesses, l'effacement de toutes nos pauvretés, la prudence. La prudence, c'est une sagesse pratique. L'art. Il y a un type particulier de personne avec l'art. Et là est un élément essentiel, le facere, l'art, pas les beaux-arts, l'art. Le corps. Il n'y a pas que l'âme, il y a le corps aussi. Le corps fait partie de ma personne. Donc l'individu fait partie de ma personne. Je suis une personne individuée. Mais c'est un élément. Le corps est partie essentielle de la personne humaine. Et puis, de fait, il y en a un de plus. Une fois qu'on a découvert Dieu, on peut dire que la personne religieuse est un type particulier d'une personne. On le verra, ça. De sorte que il y a sept éléments qui constituent une personne. Et la personne, c'est justement à l'égard de ces sept éléments d'avoir tout ordonné dans un élément qui domine. Ces sept éléments sont nécessaires à la personne. Vous voyez, c'est, je crois, la façon métaphysique dont nous pouvons regarder la personne. Premier élément, c'est l'autonomie. Vous avez besoin, dans votre personne qui se développe, de l'autonomie. Et si vous avez eu une mère trop couveuse, trop poule, tenez ses petits poussins, votre personnalité n'a pas pu se développer ça arrive. Alors vous êtes développé beaucoup après. Vous avez essayé de rattraper. Mais ça restera toujours. Vous voyez, l'éducation, le devenir. Je deviens une personne. Alors, dans ce devenir, les éléments que nous venons de nommer, tous ces éléments prennent une importance plus ou moins grande. Ça, c'est sûr. L'autonomie est sûrement un élément personnel très important à notre époque. À notre époque, on veut l'autonomie. Très vite. Le petit gosse à Paris, le petit gosse de 15 ans, rue dans les rancards, si on ne lui donne pas son autonomie, il est incapable de l'avoir complètement, mais il la cherche. On a la possibilité d'être autonome. Et on a la possibilité d'être dépendant. Quand on est dans une famille trop serrée, arrivé à un âge, 16 ans, 17 ans, on veut en sortir. Et si on le peut, on en sort soit par des voyages, ou tout simplement parce qu'on a retrouvé quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui nous permet de loger librement, librement. La liberté, quand je dis l'autonomie vitale, est très importante. Oui, c'est qu'on est un individu quand on a cette originalité, quand on a cette indépendance. Et cette indépendance, elle peut aller plus ou moins loin. Très facilement, quand on est trop serré dans sa première éducation, on veut à tout prix l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire, on dit tout simplement faire ce qu'on veut. L'autonomie présuppose un choix. On peut être autonome dans un certain secteur, et ce secteur a été choisi pour qu'on ait cette liberté. La personne doit être libre. Une personne enchaînée n'est pas une personne. Vous voyez, quand l'individu est trop dépendant de ses parents, de son frère aîné, il ne pourra pas y avoir de personne. L'autonomie, ce n'est pas commode à découvrir. Hein. Et c'est très indépendant, c'est très utile. Parce que quand on arrive à un âge certain, on a besoin d'avoir une certaine autonomie.